Comme le Père Givko vous l'a dit, lui, mais aussi Matushka Emilia, m'ont demandé de parler avec vous un peu cet après-midi à propos de cette question qui est devenue tellement difficile dans le monde aujourd'hui, toute la question du mariage, de ce que c'est le mariage. Nous sommes confrontés d'une crise qui se situe sur le plan théologique et spirituel à ce propos, aussi bien que sur le plan social et familial. La question est bien sûr comment faire face à cette crise qui a éclaté commençant à la fin des années 60. Quand je réfléchis à cela, quand j'essaie de répondre un tout petit peu, très pauvrement, à mes paroissiens ou aux étudiants qui s'adressent à cette question pour des raisons personnelles, familiales, j'ai tendance à revenir, et cela depuis quelques années déjà, à une notion qui me paraît absolument essentielle, c'est la notion de l'alliance. De notre conception de ce que c'est l'alliance, et en l'occurrence l'alliance conjugale, le mariage, en reprenant comme arrière-fond quelques ouvrages de l'Ancien Testament et du Nouveau. Qu'est-ce que c'est que l'alliance? Remontant à plusieurs milliers d'années, on trouve une alliance, la notion d'alliance, développée chez les peuples païens, bien avant le premier appel que Dieu a lancé au peuple hébraïque. Une alliance était formée entre deux familles ou deux tribus, scellée par un signe. Et ce signe était normalement un os, ou bien un morceau de bois. On a pris ce morceau d'os, ou bien de bois, on l'a cassé en deux, on a donné une partie à une des familles ou une des tribus, l'autre à l'autre, pour que chaque fois qu'ils se retrouvent, ils puissent s'identifier, surtout de génération en génération, en faisant rejoindre ces deux bouts, n'est-ce pas? Si ces deux bouts se rejoignent de façon parfaite, on sait bien que ce signe, ce symbole remonte aux origines même de l'alliance qui a été créée. Or, l'alliance a toujours compris aussi une certaine réciprocité. On fait don de quelque chose afin de recevoir, obtenir quelque chose. On se donne, on reçoit. Et cette mutualité, cette réciprocité, se trouve également à la base même de tout ce qui est alliance. Ceci est vrai autant dans le monde païen que dans le monde vétérotestamentaire. Si nous commençons par le livre de la Genèse, par exemple, nous pouvons penser à Abraham, en chapitre 15 du livre de la Genèse. Abraham reçoit de Dieu une promesse qui constitue une alliance. Le don que Abraham offre à Dieu, c'est le don de sa fidélité, n'est-ce pas? Dieu lui offre la promesse d'une postérité aussi grande que le nombre de grains de sable qui se trouvent au bord de la mer. À cette époque-là, bien sûr, il n'y avait pas encore dans l'esprit, dans la conscience religieuse d'Israël, la notion d'une vie après la mort. La mort signifiait l'entrée dans ce Sheol, représenté ici d'ailleurs, dans notre icône de la résurrection, le lieu des défunts. Et dans le premier temps, en Israël, on était persuadé que Sheol signifie le lieu où Dieu ne se trouve pas. Le prophète, par exemple, pose la question « Les esprits au Sheol peuvent-ils te louer, te rendre grâce ?» Sous-entendu, la réponse est non, parce que Dieu ne s'y trouve pas. Petit à petit, les psalmistes, comme les prophètes, comme l'ensemble du peuple d'Israël, ont commencé à comprendre que même au Sheol, Dieu est présent. Et dans le psaume 138-139, nous trouvons cette image de l'homme qui essaie de s'échapper devant la face de Dieu, n'est-ce pas? Qui a peur du jugement de Dieu, qui sait qu'il est pécheur, qui cherche à se cacher. Et puis il crie, « Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends aux enfers, littéralement, si je fais mon lit aux enfers, toi, tu es là. » Dieu est partout. Et c'est cette présence universelle de Dieu dans l'expérience d'Israël qui pose la base d'une alliance parce que l'alliance implique une fidélité absolue à une promesse. Une fidélité absolue à une promesse. Et la promesse de Dieu, c'est effectivement d'arracher son peuple à l'emprise de l'enfer, du néant, de la mort, de la corruption. Or, la promesse scellée avec Abraham, scellée par Dieu, c'est une promesse d'une part d'offrir une postérité, sans nombre, n'est-ce pas, une immense postérité, génération sur génération, qui ne connaîtra pas de fin. Mais d'autre part, cette notion d'alliance a engagé Abraham à se consacrer à Dieu d'une manière très particulière, avec une fidélité totale, et ceci était signé, signalé, scellé par la circoncision. Or, si nous passons un peu plus loin, Genèse au chapitre 22, par exemple, cette alliance est renouvelée lorsque Dieu fait appel à Abraham de faire le sacrifice de son fils bien-aimé Isaac. Il ne s'agit pas seulement d'un problème qui se situe sur le plan affectif. Abraham va perdre cet enfant qu'il aime. Cela, oui, mais encore plus important, dans une perspective réellement globale, perspective de l'histoire de salut, c'est que la seule manière pour Abraham, qui était très âgé, avec Sarah très âgée lors de la naissance d'Isaac, la seule espérance, la seule possibilité pour eux de recevoir cette postérité que Dieu leur a promis, c'est que Isaac demeure en vie, n'est-ce pas ? Qu'il ait des enfants lui-même, et ainsi de suite, génération sur génération. Or, le sacrifice d'Isaac représente une crise absolue dans la vie d'Abraham. Dieu lui-même, paraît-il, va démolir cette alliance qu'il a créée avec cet homme. Et puis, nous savons tous, nous connaissons tous cette histoire, n'est-ce pas? Le moment où Abraham, dans une obéissance totale, et une humilité totale lève le couteau afin de faire le sacrifice de son fils. L'ange du ciel l'arrête et puis il y a un bouc qui est substitué et Isaac vit. Donc l'alliance est renouvelée. Il en est de même en ce qui concerne Jacob qui reçoit le nom d'Israël en Genèse 28. Toujours en premier livre de l'Ancien Testament, Jacob se trouve dans un lieu isolé. Il entre dans une espèce de sommeil et en songe, il voit une échelle qui monte de la terre jusqu'au ciel avec les anges qui montent et descendent sur cette échelle. Cette échelle qui lie la terre et le domaine de Dieu. Alors Dieu répète son alliance, sa promesse. Tu auras une postérité illimitée, n'est-ce pas? Et puis, la réponse de Isaac, de Jacob, qui reçoit le nom d'Isaac, pour symboliser l'ensemble du peuple élu, sa réponse est d'appeler ce lieu désert, un lieu qui est réellement la maison de Dieu, la porte du ciel. Dieu, se dit-il, était là, et moi, je ne le savais même pas. Si nous passons au Nouveau Testament, pour un instant, nous voyons que cette image de l'alliance scellée entre Dieu et Jacob est accomplie précisément par le Christ lui-même. Souvenez-vous du dernier verset du premier chapitre de l'Évangile selon saint Jean. Jésus dit à ses disciples, qui sont étonnés du fait qu'il reconnaît Nathanaël qui se trouve sous le figuier, Jésus dit, « Vous verrez des choses plus étonnantes encore. Vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme, c'est-à-dire sur lui. » Jésus devient donc l'échelle de Jacob. Jésus accomplit toute cette promesse que Dieu a faite à son serviteur Jacob. Et l'alliance se poursuit, s'approfondit et arrive à sa plénitude dans la personne du Christ. Mais toujours dans l'Ancien Testament, chez les prophètes, il y a aussi cette notion d'alliance qui est très importante. Un des récits les plus curieux de l'Ancien Testament est celui que nous offre le prophète Osée, n'est-ce pas? Appelé par Dieu à se marier, à épouser une prostituée. Mais pourquoi? Pourquoi? Qui est cette Gomer, la prostituée, que Osée prend comme femme? Elle est le symbole de la fornication réalisée au sein d'Israël, qui devrait, Israël masculin, mais aussi féminin, n'est-ce pas? Israël qui devrait, d'une certaine manière, être l'épouse de Yahvé, l'épouse du Seigneur. Mais Israël entre toujours dans l'idolâtrie, tourne le dos toujours à l'invitation que Dieu lui donne, exprime, entre dans le péché, et afin de symboliser cela, Dieu fait cette demande à Osée, épouse cette femme, vous aurez des enfants, et puis ces enfants seront aussi symboliques, parce qu'eux aussi vont représenter certains aspects de l'Alliance. Avec cet appel de se marier à Gomer, Dieu dit aussi à Osée que le peuple même sera puni, sera mené en exil. Mais comme c'est presque toujours le cas parmi les prophètes, cette menace, n'est-ce pas, de rejet, d'abandon de la part de Dieu, est renversé par une promesse que le peuple sera converti et feront le retour dans la terre promise. Un autre exemple dans l'Ancien Testament, c'est bien sûr ce que nous appelons la Cantique des Cantiques. Il s'agissait à l'origine des poèmes, une série de poèmes, qui ont fait l'éloge de l'amour sexuel. Point final, c'est très simple, c'est très beau. C'est un ouvrage absolument merveilleux, même sur le plan strictement humain. Néanmoins, dès le début, on a bien reconnu que les cantiques des cantiques, parce qu'il s'agit d'un pluriel, il y a plusieurs poèmes qui ont été réunis dans ce recueil, tout cela symbolise encore l'amour, on peut dire l'amour presque érotique, que Dieu ressent pour son peuple Israël. Alors, l'époux et l'épouse, ces deux jeunes gens qui cherchent l'un l'autre avec un tel désir, un désir carrément érotique, tout cela symbolise encore une fois cette alliance, cet amour, cette passion et compassion qui existe entre Dieu et son peuple. Passons maintenant au Nouveau Testament. Cette notion d'alliance est liée de façon plus explicite au mariage. Et le meilleur exemple nous paraît dans le deuxième chapitre de l'Évangile selon saint Jean, le récit que nous connaissons tous, j'en suis sûr, du mariage, les noces de Cana, n'est-ce pas, au chapitre 2. Jésus fait son apparition, il est invité avec sa Sainte Mère, avec ses disciples. Il se rend au mariage, le vin manque, Jésus convertit de l'eau, une immense quantité d'eau, en vin, et ce vin est supérieur au vin qui était épuisé. Tout cela image le vin représentant l'Eucharistie, comme l'Eucharistie représente la communion éternelle à travers, dans la personne, avec la personne du Christ, dans le royaume céleste. Aussi, dans l'enseignement de Jésus, en Matthieu 22 et Luc chapitre 14, il y a une autre image d'une alliance qui est liée avec le mariage. C'est la parabole du festin des noces. Si nous lisons ces deux passages, encore une fois Matthieu 22 et Luc 14, on voit que, comme c'est toujours le cas, saint Matthieu a tendance à être un peu plus dur que saint Luc. Saint Luc était un homme d'une immense tendresse. Saint Matthieu utilise ces paroles du Christ afin de prononcer un jugement très sévère contre le peuple d'Israël qui ont refusé d'entrer en foi et en communion avec Jésus de Nazareth, le Messie, le Sauveur. Saint Luc a tendance à atténuer un peu la force, la violence que nous trouvons dans la condamnation prononcée par Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, mais on revient exactement à la même chose, n'est-ce pas? Il s'agit toujours d'une alliance rompue par ceux qui sont invités et qui refusent de venir. Alors le maître de la fête, du festin, est fou furieux. Il envoie ses serviteurs dans les rues pour faire entrer tout le monde. Or, sur le plan terrestre, ceci représente, dans l'Église primitive, ce qui est arrivé déjà parmi les disciples de Jésus, c'est-à-dire un conflit entre ceux qui sont les plus fidèles et ceux qui ne le sont pas. Au sein de l'Église, il s'agit du conflit, au premier temps, entre les Juifs et les païens. Les Juifs qui ne voulaient pas que les païens entrent, ou bien les Juifs qui ont refusé d'accepter Jésus comme Messie. Alors, Dieu lui-même, à travers cette parabole, si vous voulez, lance l'appel au-delà des Juifs afin d'attirer les païens. Saint Paul dira dans son épître aux Romains que la raison pour laquelle le cœur des Juifs était endurci, c'est précisément pour que cette invitation soit ouverte devant tout le monde. Pour que l'Église ne reste pas, ne demeure pas tout simplement comme un autre secte juif, il faut que ça s'ouvre devant le monde entier. Il faut que l'alliance que Dieu offre aux hommes embrasse la création tout entière. Alors ce refus de la part du peuple de Dieu est un refus qui entre aussi dans tout le mystère de la rédemption, tout le mystère du salut. Et cela fait partie aussi de tout ce mystère d'alliance. Significatif donc que ça se situe aussi dans le contexte d'un festin nuptial. Un autre passage, il y en a encore un que j'aimerais évoquer tout à l'heure, qui est peut-être le plus important. Mais avant d'y arriver, j'aimerais noter un dernier passage qui se trouve dans le chapitre 10 de l'Évangile selon saint Marc, les versets 2 à 12. Ici, Jésus est en train de définir, si vous voulez, le sens du mariage tel que lui, il le comprend. Il fait appel au livre de la Genèse, au chapitre 1 et 2. où Dieu se dit, le sein de la Sainte, au sein de la Sainte Trinité, il y a ce dialogue, n'est-ce pas, qui se réalise. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et puis au chapitre 2, il est dit que l'homme et femme meneront une vie à part. L'homme quittera sa famille, la fille quittera sa famille, et les deux deviendront une seule chair. Jésus reprend ces paroles. Les deux deviendront une seule chair, et il le répète, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. L'alliance arrive donc à sa terme, pleinement achevée, lorsque deux personnes sont unies jusqu'au point... Allez-y. Mais c'est de belle musique quand même. ce lien qui est créé donc, c'est le lien que le Christ lui-même met en avance comme l'idéal pour décrire la profondeur de l'amour, de la fidélité qui devrait marquer toute existence au sein de l'Église. On peut supposer aussi que Jésus a entendu par ces paroles qu'ils deviennent et qu'ils demeurent une seule chair, qui signifie par cela non seulement un refus du divorce, ça c'est clair, mais qu'il veut dire également, en lisant entre les lignes, cela paraît clair, que l'alliance nuptiale comporte une dimension sacramentelle qui est essentielle. Et qu'est-ce que c'est que le sacrement ? C'est le geste, les actes, les paroles, la réalité qui nous lie avec l'éternité. Chaque sacrement comporte une dimension universelle, une dimension éternelle. Et cela signifie qu'aux yeux de Jésus, le mariage ne se termine pas à la mort du couple, la mort de l'un ou de l'autre, mais continue au-delà, pour être complété, achevé en toute sa plénitude dans le royaume céleste. Alors, l'alliance telle qu'elle a été conçue dès le début dans l'Église est justifiée, entre guillemets, pour trois raisons principales. La procréation en premier lieu, comme réponse au commandement que Dieu a donné à son peuple, ou à Adam et Ève, qui représentent l'ensemble de son peuple, déjà au début de l'Ancien Testament. Procréer, littéralement, et remplissez la terre. Donc la procréation, la continuation de la race, c'est la première justification, si vous voulez, de cette union conjugale à laquelle certaines personnes sont appelées. Mais cela va de pair avec une autre justification, une autre raison pour laquelle le Christ appelle hommes et femmes de se rejoindre, de s'unir, de devenir une nouvelle création, devenir une seule chair. Et c'est pour ce que l'on appelle l'union conjugale, l'union d'amour, l'union de compassion, de compréhension, de soutien, de guérison mutuelle, de cheminement mutuel. Et c'est ça ce qui nous permet d'affirmer que là où un couple ne peut pas avoir d'enfants, par exemple, leur union conjugale n'est nullement diminuée. Sur le plan affectif, peut-être, ils veulent avoir d'enfants. Mais s'ils ne peuvent pas, cela ne diminue en rien toute la beauté, toute la valeur, tout le potentiel de leur union conjugale. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut, il faut se rappeler. Mais il y a une troisième raison pour laquelle le Christ appelle son peuple de s'unir dans le mariage. Et c'est pour le salut réciproque, le salut mutuel. Dans la première épître aux Corinthiens, Saint Paul doit répondre à une question qui a été posée par quelques membres de la communauté de Corinthe. C'était une communauté mixte. Il y avait des femmes, par exemple, qui étaient mariées à des hommes païens. Le mari n'entre pas dans l'Église, c'est-à-dire qu'il ne se fait pas baptiser. Et la question de la femme, c'est est-ce qu'elle doit continuer à vivre avec lui ou se divorcer? Et saint Paul dit, dans la mesure où le non-croyant, c'est-à-dire le païen, est d'accord de maintenir cette union, il faut le faire. Le chrétien ne devrait jamais prendre l'initiative de faire un divorce. Mais, si le non-croyant ne veut pas maintenir cette relation, séparez-vous afin de maintenir la paix. Donc, le divorce est permis dans certains cas comme cela. Mais, à la fin de ce paragraphe, saint Paul pose deux questions quasiment rhétoriques. Il demande, « Femme, comment sais-tu si tu restes liée avec ton mari non-croyant ? Femme, comment sais-tu que tu ne sauveras pas ton mari ? Mari, comment sais-tu que tu ne sauveras pas ta femme ?» Et voilà donc la base la plus solide, la plus importante de tout ce qui est relation conjugale. On se marie dans une perspective chrétienne pour procréer, oui, pour mettre au monde une nouvelle génération, pour entrer en une union profonde, intime, d'amour, du don du soi, union sacrificielle, l'un pour l'autre. Mais le but final de tout cela, c'est effectivement le salut des uns des autres. Alors, avec cette espèce de petit survol des sources bibliques, où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça signifie pour nous-mêmes, pour nous en tant que chrétiens, pour nos voisins, pour les croyants et les non-croyants dans le monde qui nous entoure? Père Givgo a évoqué tout à l'heure le fait que la moitié des mariages se terminent en divorce aujourd'hui. Ce qui pousse les jeunes de plus en plus à vivre une sorte de ménage à deux, n'est-ce pas, sans bénéfice du mariage. Pourquoi, si tout le monde autour de moi est divorcé, pourquoi se lancer là-dedans, n'est-ce pas? C'est une question tout à fait logique. Malheureuse, mais tout à fait logique. Tout à fait logique. Mais cela va de pair, n'est-ce pas, avec un déclin important dans le nombre de naissances. Ici en France, comme en Italie, ça devient dramatique. Aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait à ce point-là, mais pas loin, pas loin. Alors, qu'est-ce que ça signifie, même sur le plan sociologique? On ne sait pas encore. Il y a des problèmes chez les couples. Ce n'est guère la peine de les énumérer tous. Nous les connaissons, tous ceux qui sont mariés de toute façon. Le mariage, comme le monachisme, exige une ascèse très importante. Et il est souvent impossible de mener cette ascèse sans que l'un ou l'autre, entre guillemets peut-être, mais pas forcément, sans que l'un ou l'autre se tue carrément. Il y a des moments de conflit qui deviennent tellement importants que la continuation d'un mariage tout à fait factice n'est plus faisable, n'est plus possible, n'est-ce pas? Alors, l'Église accepte le divorce. Un deuxième mariage est permis avec les prières de pénitence. Mais ce qui est important, c'est de reconnaître le fait qu'en acceptant le divorce, comme certaines autres Églises ne le font pas, l'Église orthodoxe a toujours reconnu le fait, d'abord, que nous sommes de faibles humains, que nous avons nos perspectives qui parfois font clash les uns avec les autres. Pardon. Souvent, au fur et à mesure, il y a une tension, conflit, niveau de stress, etc., qui surgit au sein d'un foyer qui fait qu'il n'est plus possible pour eux de maintenir la paix, comme saint Paul l'a dit, et le mariage s'est dissous. Mais il y a beaucoup de choses qui font leur impact dans un mariage qui sont souvent, dans un sens, le couple n'y est pour rien. Par exemple, je pense au phénomène de l'acharnement au travail. Je me rappelle bien, finalement, à la fin de l'été passé, ma femme m'a dit un beau jour, j'étais là pendant tout l'été, travaillant à la maison, comme d'habitude, « Quand tu es là, tu n'es pas présent. Quand tu es là, tu n'es pas présent. » Et c'était vrai. Cloué à mon ordinateur, elle était dans la pièce, elle était là, « Bonjour, bonjour, fiche-moi la paix, donc, n'est-ce pas ?» j'ai besoin de terminer tel ou tel article, tel ou tel travail, ceci, cela, n'est-ce pas? Toujours une excuse, toujours une raison pour...
Hein? Internet.
Internet, ah, c'est encore pire, n'est-ce pas? Le email qui vient... Avant même de dire bonjour à ma femme, parfois, j'avais allumé pour voir ce que j'avais reçu comme email. Donc, ça devient dément, n'est-ce pas? Or, cela crée une tension qui est parfois très, très dur. Mais je crois qu'il vaut la peine de noter... Oh, merci beaucoup. Merci bien. Deux ou trois autres choses, tout simplement pour évoquer ce que nous connaissons tous. Nous savons également qu'il y a au sein de beaucoup de familles, peut-être les nôtres, des problèmes de dépendance. Que ce soit l'alcoolisme, que ce soit les drogues, que ce soit la religiosité, excusez-moi, mais c'est une dépendance. Certaines personnes deviennent tellement obsédées par le travail à l'église, n'est-ce pas, que tout le reste tombe, y compris les relations avec la famille. C'est un danger toujours pour nous. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu dire à mes étudiants, il faut que ma femme, normalement c'est avant qu'ils ne se marient, heureusement, il faut que ma femme comprenne que pour moi, l'Église vient en premier et la famille en deuxième place. Mais ça veut dire que la famille vient à la dernière place, forcément, parce que tout le reste de sa vie, c'est l'Église. Et ça crée aussi une ambiance très malsaine, et nos prêtres, franchement, n'en sont pas suffisamment sensibles. Et voilà la raison pour laquelle ma femme et moi, nous avons commencé cette petite maison d'accueil dans la Caroline du Sud, loin de l'Institut Saint-Vladimir, pour accueillir des prêtres qui sont en difficulté, mais aussi et surtout leurs épouses, qui sont en davantage de difficultés très souvent à cause de ces pressions qui surgissent au sein du foyer. Le prêtre est là pour tout le monde. Il est le père de tout le monde, sauf pour ses propres enfants. Il est là, disponible pour donner un conseil, un soutien pour tout le monde, à l'exception de sa femme, qui devrait se débrouiller elle-même, et ainsi de suite. Bien sûr, c'est une caricature, mais les pressions sont là et ont tendance à susciter précisément ce genre de problème, même au sein des foyers cléricaux. Mais il faut dire aussi qu'il y a ce phénomène que nous appelons en anglais le midlife crisis, crise au Moyen Âge. Qu'est-ce qu'on dit en français? La quarantaine. C'est déjà la quarantaine chez vous? Normalement, c'est entre 45 et 50 chez nous. Je ne sais pas si on est plus résistant ou bien les circonstances sont tout à fait différentes, je ne sais pas. Mais oui, c'est tout à fait ça. Non, la quarantaine, cinquantaine. Et qu'est-ce qui se passe? Souvent, il y a une espèce d'ennui qui s'installe, n'est-ce pas? On a assumé son travail, ça marche bien pendant quelques années, et puis finalement, on s'ennuie. J'ai tout un tas d'attentes, d'espoirs qui ne seront pas réalisés, je le sais bien. Tout ce que je fais, c'est le train-train de tous les jours, n'est-ce pas? Métro, boulot, dodo et tout ce qu'on dit à ce propos. Et finalement, ça devient tellement lourd que je me détache sur le plan affectif des personnes qui me sont les plus proches, mes enfants, mon épouse. Mais la tendance est aussi d'aller chercher un peu de excitement, quelques aventures, n'est-ce pas? Que ce soit sexuel, que ce soit de l'alcool, que ce soit tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Et cela crée aussi une crise de plus en plus grave aujourd'hui. Finalement, je voulais évoquer l'image de ceux qui ont vrai saints, des saints de l'Église, accueillent chez eux les parents âgés, les personnes âgées qui ont besoin des soins presque constants, au lieu de les mettre dans une maison ou demander à quelqu'un d'autre de s'occuper de maman ou de papa, qui prennent de l'âge, ces personnes les accueillent et parfois cela aussi devient très très difficile. Nous avons chez nous un lecteur dans la paroisse. Lui et sa femme, depuis des années, avaient envie de créer une espèce d'hospice. Or, Dieu leur accorde, exauce cette prière de façon presque violente. Trois de leurs parents se trouvent chez eux, deux des parents ont atteint de Alzheimer. Le troisième est à cause des modifications de sa chimie cérébrale, il est devenu carrément méchant. Et c'est une crucifixion quotidienne par laquelle le couple passe. Pourtant, et il est important de souligner cela, les deux m'ont dit tout récemment, depuis que nous sommes assommés par tout cela, elle et moi, dit-il, lui et moi, dit-elle, nous sommes plus proches que jamais. Donc il y a de la grâce qui passe aussi à travers tout cela, n'est-ce pas? Puis la dernière chose avant de tirer un certain bilan de tout cela, c'est qu'il faut évoquer aujourd'hui ce que l'on appelle le mariage homosexuel, ce qui pose aussi énormément de problèmes au sein de l'Église, au sein de la société également. La notion de mariage homosexuel, c'est un oxymoron, une contradiction dans les termes. Et c'est impossible parce que Dieu les a créés hommes et femmes et le mariage se limite à cela par définition. Union du même sexe, ça c'est sur le plan sociologique tout à fait concevable, surtout quand il s'agit des droits. Tout ce que vous voulez, héritage, les impôts, je ne sais trop quoi. Pourtant, il faut insister sur le fait que l'Église a une certaine vision à l'égard de l'homosexualité qui remonte au Christ lui-même et au-delà dans l'Ancien Testament, qui est très claire. C'est que l'homosexualité, disons les actes homosexuels, représentent un péché, représente une sorte de tentation qui peut démolir une personne de l'intérieur. L'homosexualité est vue comme une espèce de dysfonctionnement, mais, ceci dit, on a heureusement appris ces dernières années à faire une distinction très importante entre ce que l'on appelle l'orientation homosexuelle et les actes posés. L'orientation homosexuelle a des racines que personne ne comprend encore, parfois génétiques, parfois provenant de l'environnement. Et sur le plan moral, l'orientation homosexuelle est tout à fait neutre, tout à fait comme l'hétérosexualité. Parce qu'il paraît qu'il y a des personnes qui sont réellement créées comme ça. Comme l'hétérosexuel est créé comme ça, n'est-ce pas? Et cette différence-là, il faut absolument respecter, parce qu'il y a trop de personnes d'orientation homosexuelle qui ont été victimes d'une violence tout à fait inadmissible. Néanmoins, il faut dire que l'Église, dans son ensemble, ne peut jamais bénir un mariage homosexuel, du moins dans la mesure où cela entraîne des relations sexuelles. parce que, comme vous le savez bien, toute la perspective de l'Église, qui paraît tellement caduque aujourd'hui, mais néanmoins pour la personne et la valeur de la personne, reste quelque chose de très important. Toute vie sexuelle, toute expression sexuelle a son contexte juste et propre dans le mariage. C'est-à-dire, devenir une chair implique l'alliance avec sa bénédiction, avec son enracinement dans la personne de Dieu même. Mais passons, je ne veux pas tarder là-dessus. J'aimerais terminer tout simplement en évoquant quelques adjectifs qui me semblent essentiels pour exprimer ce que l'Église comprend comme mystère du mariage. Ces quatre adjectifs ont une importance capitale dans le monde d'aujourd'hui, dans la société actuelle. Les quatre sont les suivants, que j'ai essayé de développer ailleurs d'ailleurs. Le mariage chrétien est monogame, hétérosexuel, béni et conjugal. J'aimerais dire un mot sur chacun. Monogame parce que Dieu est un Dieu jaloux. Voilà ce qu'il dit de lui-même à travers l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Je suis un Dieu jaloux. Il aime Israël. Il cherche l'amour d'Israël. Et c'est cette monogamie entre Dieu et son peuple qui sert comme image de base pour toute relation qui crée une seule chair entre un homme et une femme. Mais cela veut dire aussi, bien évidemment, que le mariage est forcément hétérosexuel. Dieu les a créés hommes et femmes afin que la procréation soit possible. Pas essentiel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Néanmoins, la complémentarité sexuelle est essentielle. Et c'est ça ce qui fait que l'hétérosexualité devient un critère de base pour toute relation conjugale. Mais ce qui rend le mariage spécifiquement chrétien, c'est le fait qu'il est béni. Un couple qui se rend à la mairie est obligé de le faire ici en France. Chez nous, aux États-Unis, l'État reconnaît les mariages faits à l'Église. Ce n'est pas le cas ici. On est obligé, n'est-ce pas, de passer devant la mairie. On entre avec sa belle robe, elle entre avec la belle robe, n'est-ce pas? Et donc, tous les convives sont là et c'est une grande fête. Ils sortent et la question que posent du moins beaucoup d'orthodoxes et de catholiques, et certains protestants aussi, il faut le dire, est-ce que nous sommes réellement mariés? Il y a des orthodoxes qui acceptent cela tout simplement comme une étape administrative qui ne signifie rien. Et le vrai mariage arrive et ils vont commencer à vivre ensemble seulement après la bénédiction accordée par l'Église. Pourquoi cette bénédiction est-elle si importante? À cause encore de l'Alliance. L'Alliance scellée par Dieu avec son peuple. Et recevoir la bénédiction de Dieu, c'est se mettre au milieu de l'Église, entouré des membres du corps du Christ. Et ça signifie non seulement les membres de la famille et les invités, mais c'est toute la communion des saints qui est présente. C'est le monde visible et invisible qui participe à cette célébration et cette bénédiction de Dieu qui tombe sur ce couple, qui unit ce couple, créé de une nouvelle création qui est à la base de tout ce qui est la notion de une seule chair. Donc la bénédiction, c'est ça ce qui rend du mariage un vrai sacrement, ce qui accorde au mariage sa dimension éternelle. Enfin, le dernier adjectif, c'est que le mariage est conjugal. C'est un pléonasme, dit-on en français, pléonasme, yes. Bon, très bien. Tautologie conjugale, bien sûr, c'est conjugal. Mais ce n'est pas si évident que cela. En accentuant le fait que le mariage est réellement conjugal, ce que l'on affirme, c'est le fait que l'alliance est réellement achevée dans la vie de ce couple. Parce que, et c'est ça ce qui me fait revenir à ce dernier passage biblique que je voulais évoquer tout à l'heure, ce que nous faisons, ce que nous réalisons, ce que nous sommes appelés à vivre au sein d'un mariage, c'est ce que le Christ vit en relation avec l'Église. L'épître lu à chacun de nos offices de mariage, vous le savez bien, c'est Éphésiens 5. Normalement, on commence ce passage « Femmes, soumettez-vous à votre mari ». Ce n'est pas là où le passage commence. Il commence le verset précédent. « Aimez-vous les uns les autres comme le Christ aime l'Église ». Et comment est-ce qu'on fait cela? La femme d'une façon, le mari d'autre façon, mais les deux de manière tout à fait complémentaire. Il n'y a aucune subjection de la femme au mari. Au contraire, ce qu'il y a, c'est une liberté totale accordée par la bénédiction du mariage qui accorde à la femme la même liberté que le Christ accorde à son épouse, l'Église. Et si on continue, même aujourd'hui, à lire ce passage lors des offices du sacrement nuptial, c'est précisément pour mettre l'accent sur cette union, cette alliance que Dieu a établie avec son peuple, et d'affirmer pour le couple, mais pour la communauté à laquelle le couple va s'insérer, affirmer le fait que ce que eux vivent ensemble devrait être une icône de la vie de la paroisse, de l'Église tout entière. Appelé à vivre une relation d'alliance, c'est d'entrer en une union et une communion d'amour avec le Christ et les uns avec les autres, qui comporte toujours une dimension éternelle. Ceci représente, de façon très superficielle malheureusement, mais ceci représente, me semble-t-il, au moins certains éléments qui constituent ce que nous appelons le mariage chrétien. Vécu dans le monde actuel, ce genre de mariage iconographique, si on peut le dire, mariage en tant qu'icône de l'amour du Christ pour l'Église, est extrêmement difficile à réaliser. Mais tout ce que je peux dire, c'est que, avec les pressions imposées par la société dans laquelle nous vivons, il est plus important aujourd'hui que jamais que chaque couple ou chaque individu qui pense à une vie conjugale dans l'avenir, que chacun d'entre nous, nous continuons à prier au jour le jour, prier sans cesse que Dieu accomplit chez nous, en nous, tout ce qui est alliance dans le sens le plus profond du mot, qu'il montre à travers notre relation avec celle ou celui que nous aimons toute la plénitude de son amour, que le Christ lui-même exprime sans cesse envers son Église. Voilà, j'aimerais m'arrêter là pour le moment.